En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Elles avaient pris la poussière, planquées sous notre lit, ces bandes dessinées de notre adolescence, aux titres inoubliables. Cacette Blues, l'autoroute du soleil, les années Spoutnik. Son auteur est un copain, d'emblée, sans le connaître. Comment ne pas trinquer avec le papa de Cacette Blues? Il dit s'appeler Barou, c'est un loup blanc du festival d'Angoulême en France, plusieurs fois primé. Pour sa génération, toujours en perfecto, tendance sociologique « I can get no satisfaction », Barou ne peut être qu'un copain parce qu'il est resté ce fils d'étranger, fils d'ouvrier, qui dans cette rediffusion, avec une tendresse rageuse, nous présente la grande histoire de l'immigration italienne et la petite histoire de sa smala de macaroni, comme il dit. C'est aux éditions Futuropolis et ça s'appelle Bella Ciao. Comment ça va, Barou ?
Ça va.
Bien.
Bien, oui, je pense, oui. Malgré l'âge qui avance, mais ça va.
Vous êtes joliment décoiffé, j'adore.
Oh non, je pratique le pétard régulièrement, mais pour mes cheveux. Hein,
ouais. Ah bon? En tout cas, dans l'une de vos premières vies, justement, à propos de pétard, est-ce que vous étiez plutôt guitare ou plutôt batterie?
D'un strict point de vue du fantasme, plutôt guitare. D'ailleurs, avec mon premier cachet d'auteur de bande dessinée, qui m'avait été versé par M. Dargaud, Georges, à l'époque, la première chose que j'avais faite avec le chèque, c'est d'aller dans une rue qui était derrière Pigalle, là chez... Je crois que c'est un chanteur, un musicien, un mec qui s'appelait Marcel Dadi, et qui vendait des guitares derrière là. Et donc là, je m'étais acheté une Fender Stratocaster de 76, une vraie tuerie, quoi. Et donc, mais sauf que j'ai jamais eu le temps, en fait, d'apprendre.
Alors, comme vous êtes, je vous cite, très sectaire musicalement, on ne va écouter que du rock.
Désolé.
Vous êtes de la génération des Who, mais période coupe au bol, hein, j'ai bien regardé. Pourquoi ce titre, My Generation des Who?
Parce qu'il y a génération dedans, quoi. De toute façon, le rock'n'roll, ce n'est pas une chose de tête. Ça s'adresse juste au cerveau aussi, mais juste en dessous de des choses intelligentes. C'est vraiment le truc, moi, qui m'a libéré, qui a libéré mon corps. Hein. Le rock, tu tapes du pied et puis tu te trémousses, quoi. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Just my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. About my generation. I'm not trying to cause a big sensation. About my generation. I'm just talking about my generation. What we all talking about my generation. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation.
S. est-ce comme sex, drug and rock and roll.
Alors, est-ce que ça tourne rond dans votre souvenir, Baru?
C'est quoi? Mais ça, c'était mon fantasme de gamin, ça. Vous arrivez à visualiser les cités comme ce que nous, on appelle les cités à l'époque, mais qui ne sont pas les cités comme on les connaît aujourd'hui. C'était des petites barres d'habitation, comme ça, avec un étage, où il y avait 8 logements en tout dedans, quoi. Moi, j'étais donc à la cité du Ruisseau, à Sainte-Claire. Et il y avait le mec qui habitait au bout de la cité, qui était un peu une tête de con, en plus, mais qui avait une strada flash. Et nom de Dieu, ce truc-là, ça me faisait mais baver.
C'est un cyclomoteur.
C'est une. Vous savez, mais c'est ces petits cyclomoteurs italiens où c'était pas des mobilettes, comme on dit, avec le cadre, avec le réservoir qui descend comme ça. Là, c'était plutôt tout horizontal comme ça. Mmh. C'était en fait une petite moto. Et quand vous étiez là-dessus et que vous étiez accroché au guidon, vous aviez la tête quasiment sur le guidon et c'était génial, quoi. C'était une posture absolument hallucinante. Et il y avait une queue de renard.
Ah ah, où ça?
Derrière.
Et donc, vous auriez tué père et mère pour ça?
Oui, oui. Ouais.
Votre frère, en tout cas.
Mon frère, au moins. Oui, oui. En plus, il me cassait les pieds, donc c'était parfait.
Vous êtes né à Thil, en Lorraine, Lorraine sidérurgique, Baru, que vous avez sans doute beaucoup dessiné. Justement, en quelques coups de crayon, ça donne quoi, cette région-là?
Aujourd'hui?
Non, à l'époque.
Ah, à l'époque. Bah, à l'époque, avec des cathédrales de fer et de fonte qui coulait, et puis au milieu, avec la coulée du Haut-Fourneau, avec le rougeoiement du ciel la nuit.
Vous nous rappelez ce que c'était, les Hauts-Fourneaux?
Oui.
Oui.
Oui. Mais vous savez, c'est des endroits où on faisait d'abord de la fonte, laquelle fonte était ensuite mise dans des cornes du Besper, et elle était transformée en acier.
D'accord.
Et donc, toutes les bagnoles que vous avez eues, toutes les mobilettes que vous avez eues jusqu'à maintenant, elles sortaient de ces machines-là, quoi.
Donc, dehors, c'était un peu la rumeur de ces fameux Hauts-Fourneaux, et... Ouais. Et le moteur de la Paloma Strada Flash. Et dedans, c'était différent. Tiens, si on allumait la télé.
Angema est assis tranquillement dans son coin, alors que le dragon de Bagnolet est debout. Angema très calme, impassible, catcheur sans nom et sans frontières. Ah, oh, très jolie passe. Encore une fois, l'ange blanc que nous ne connaissions pas fait preuve de très grande qualité de catcheur. Et là, c'est deux blanchets japonaises, très bonne facture. Double Nelson de Villard.
On est en 1959, quelque chose comme ça, et c'est une soirée télévisée en noir et blanc que vous avez vécu, Baru, avec cet ange blanc, là. C'était qui, cet ange blanc?
L'ange blanc, c'était une espèce de justicier, quoi, parce qu'en face de lui, il y avait toujours un méchant, et lequel méchant lui faisait du mal, enfin, apparemment. Mais sauf qu'à la fin, c'est l'ange blanc qui gagnait, quoi. C'était quand même formidable, quoi. C'était quand les premières télés étaient arrivées dans les cités, parce que tout le monde n'en avait pas. Hein. Sauf un, le père Casarotto, qui habitait aussi dans ma barre de cité, mais juste avant le mec de la Strada Flash, de la Paloma.
Ouais, on a déjà l'image, là.
Et lui avait la télé en noir et blanc. C'est à cause de lui que je croyais qu'ils se tapaient vraiment dessus, quoi, qu'ils allaient se faire étouffer par une prise au cou. Et le père Casarotto, il était encore pire que nous quand on était gamin. Nous, on y croyait, mais lui, il y croyait, mais dur comme fer, quoi. Mmh. Une fois que j'ai eu compris que c'était du flan, il y avait une espèce de candeur chez lui. C'était presque une approche poétique de la télévision.
On va rester dans la télé parce qu'à l'époque, il n'y a pas que le catch français qui occupe les esprits à la maison. Il y a aussi du cinéma avec cette histoire de migrants italiens qui débarquent un jour en Suisse. Où pense-t-il il est possible de faire fortune? Il s'appelle Nino Garafalo, sans l'accent. Il est serveur de restaurant, au début du film en tout cas. Et il engueule son petit commis qui arrive avec un cocard comme ça à l'œil et qui est très en retard.
Delinquente! Disgraziata, a quest'ora te presenti?
Sono stato all'ospedale, signor Nino.
All'ospedale? A fa che?
Parlavano male degli italiani.
Dai.
Io non ci ho visto più. Ne ho preso uno per il collo e...
E t'ha mandato all'ospedale?
Sì.
Poche te ne andate. Io sto qui a correre su e giù per le scale, a farmi pure l'oro tuo. E il signorino gioca a far il patriota.
Mandato tre punti, signor Nino.
E beh, che vuol dire? Tre punti, tre ore? Un'ora a punto? Sbrigati! Che se per colpa tua mi cacciano via e danno il posto al turco, te ci rimano io all'ospedale. Altro che tre punti. Te faccio ricusi a macchina. Borletti, punti perfetti.
Lotta!
est-ce que vous pouviez regarder Pain et chocolat en version originale sans sous-titres ?
Avec sous-titres.
Avec sous-titres.
Avec sous-titres parce que je ne parle pas italien. Pas du tout. Enfin, si, un peu. Je parle aiguille, mais c'est honteux, compte tenu de mon ascendance, de parler italien de cette façon-là. Quoi. C'est lamentable. Mais c'est surtout aussi pour une raison très très simple. Hein. C'est que mon père était originaire des Marques. C'est des Marches, comme on dit. Par rapport à Rome, c'est de l'autre côté des Apennins, mais côté Adriatique. Et bon, bien sûr, les Marchegiani, comme on disait, ils avaient un patois à eux. Mais les Toscans à côté avaient un autre patois, les Romagnols avaient un autre patois, etc., etc. En fait, l'Italie, c'était une mosaïque de patois différents. Quoi. Ce qui fait que quand tous ces gens-là se retrouvaient dans les cités à Saint-Clair, à côté de l'usine, eh bien, pour pouvoir parler entre eux, ils ont dû s'inventer une langue qui n'était pas la leur. Ils ne parlaient pas italien, personne ne parlait italien. Je vous parle de ça dans les années 50. Quoi. Donc du coup, chez moi, on parlait français. Parce que mon père, en plus, il nous interdisait de parler italien, même de, d'essayer. Oui, parce que pour lui, c'était définitif. Mais moi, je me souviens même une petite anecdote. Quand son père, enfin mon grand-père, venait à la maison parce qu'il avait envie de bavarder et de parler un petit peu en italien aussi, parce que lui, il parlait très mal le français, donc il n'est pas là en italien. Et chaque fois, mon père le reprenait en lui disant, quand nous, on était là, tu parles français, il y a les gosses. C'est donc, il y avait un vrai projet familial sur le fait de devenir transparent dans la société française et surtout donc ça passait par l'apprentissage de la langue.
On vient d'écouter là donc un extrait de Pain et chocolat que vous nous avez suggéré pour en sol majeur, Barum, mais c'est pas par hasard. Est-ce que vous vous retrouviez dans cette histoire d'Italien qui migre vers la Suisse pour un mieux-être, etc. Vous, le fils d'ouvrier qui portiez un nom d'étranger.
Oui, un nom italien. Ben, disons que c'est la situation de l'immigré qui m'a beaucoup touché, quoi, parce que je trouve qu'elle était extrêmement juste. Avec des choses terribles, c'est un truc dramatique, pourtant c'était drôlissime, la scène du match de football, Nino Manfredi qui veut absolument s'intégrer et donc se fondre dans le paysage qu'on ne le remarque plus en tant qu'étranger, il va se teindre les cheveux et la moustache en blond pour être suisse, et là du coup on le salue dans la rue, les choses, sauf que Chassine Naturel, il revient au Gallo. Il rentre dans un bistrot, il y avait un match de foot à la télé qui était Suisse contre Italie. Et bien sûr, l'Italien marque un but et là, il se met à hurler. Goal ! Démasqué. Excusez-moi, parce que je trouve qu'après, c'est la chute qui est absolument magnifique de cette petite séquence. Hein. C'est qu'il sort donc à toute vitesse du bistrot où il était. Mm-hmm. Et vous savez, c'était une époque où il y avait encore des piliers de chaque côté de la porte en glace, comme ça, en miroir. Mm-hmm. Et donc, il se regarde, il se voit blond et tout, et là, il supporte pas cette image, et il se met un coup de tête dans la glace et il la casse. J'ai trouvé ça d'une puissance.
Justement, pour vous, Baru, comment vous viviez le fait d'être un fils d'ouvrier, d'une part, avec des origines étrangères, d'autre part, est-ce que c'était valorisé ? Comment vous l'avez vécu ?
Non, au sortir de l'adolescence, quand je suis allé au lycée, c'était pas valorisant du tout d'être italien. Comment dire ? Presque, je vais vous parler de double peine. C'est que non seulement on était, j'allais dire, ostracisés parce qu'on était des fils d'ouvriers, et ensuite, une deuxième fois, la deuxième couche, parce qu'on était italien. Et donc, moi, je sais qu'à un moment donné, au lycée, comme ça, j'avais tellement le désir d'avoir des amis parmi tous ceux qui m'entouraient que j'ai fini par avoir honte de ce que j'étais. Quand j'en suis rendu compte, ça m'a mis dans une rage, une colère, mais folle. Et peut-être que c'est aussi cette colère-là qui me permet de faire ce que je fais maintenant. Bon, bien sûr, maintenant, elle s'est considérablement amenuisée, cette colère-là. Mais au fond de moi, quand j'en parle encore, je m'en veux encore. Quoi. C'est dingue, c'est vraiment un vrai traumatisme pour moi. I'm going down by the jetty. Tonight the tide is high. Tankers in the channel and flames up in the sky. I'm going down by the jetty before I leave this world behind. Cause that old slick cold water is bound to ease my worried mind.
Faites-vous le métier que vous rêviez de faire enfant.
Avec un peu d'élégance à la Librillo, alias Dr. Feelgood,
oui,
que vous aimez tant, Baru, mais on n'a pas le temps de s'arrêter sur lui. Est-ce que dessiner, c'était un rêve d'enfant pour vous ?
Non. Non, tout simplement parce que c'était en dehors de ma sphère culturelle. Chez nous, les seuls métiers qui pouvaient exister, c'est ceux qui te permettaient de manger. Quoi.
Alors donc, comment c'est venu ?
Des mauvaises fréquentations d'abord, et puis ensuite des bonnes fréquentations. Moi, je suis tombé, au début de mon âge adulte, je suis tombé dans Harakiri, oui. Et dans Charlie Mensuel, et je me suis dit, ok, ça, ça me parle, ça me cause. Et là-dedans, il y avait un mec qui s'appelait Jean-Marc Reiser, oui. Et dans les petits gribouillés de rien du tout, empoignait le monde avec une finesse, une subtilité, et parfois aussi une violence. Et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de ce traumatisme, peut-être c'est un mot un peu trop fort pour dire que ça m'avait vraiment profondément affecté, c'est que je suis sorti du bahut en me disant « Ok, moi je veux prendre la parole publiquement pour que les choses et les violences qui nous sont faites n'existent plus. » Je voulais me battre contre ça. Quoi. Et le médium que j'allais utiliser m'est venu tout simplement en fréquentant Harakiri et en rencontrant Reiser.
La mattina, mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Alors quel Français, même inculte, ne connaît pas Bella Ciao? C'est le titre donc de votre grande saga italienne. Qu'est-ce qu'on doit dire sur Bella Ciao? C'est un hymne à la résistance. Qui est né comment d'ailleurs?
C'est devenu un hymne à la résistance. Parce que tout simplement, les résistants italiens, une fois que Mussolini a été écarté dans la République de Salo et puis que les Allemands avaient envahi l'Italie, et puis, donc, moi, c'était là-dessus que je m'étais focalisé, en me disant, OK, c'est une chanson que peut-être mes parents chantaient.
Mais c'est un titre qui est né dans les rizières
parce que c'est ça. Parce que, en fait, c'est un copain qui m'a dit, mais fais gaffe, c'est pas aussi simple que tu le crois. Quoi. Et il m'avait donné un article de la Repubblica où il y avait quelqu'un qui expliquait que c'était une construction postérieure à la guerre de 40. Et que, au fait, la chanson d'origine, c'était une chanson des Mondine, les Mondine étant ces femmes qui venaient de toute l'Italie pour travailler dans les rizières du pot, pour enlever les mauvaises herbes et replanter les plants de riz, quoi. En fait, Bella Ciao, c'est un blues quasiment, quoi. Un blues de femme. Mm. Et le paradoxe, c'est que c'est devenu un hymne international aujourd'hui. Tout le monde chante Bella Ciao et que ça soit associé à la résistance. Chapeau, moi j'ai rien contre.
Ah oui, quand même, on en reparlera d'ailleurs de cette reprise dans le monde entier plus tard. Mais pourquoi ce titre? Pourquoi vous l'avez choisi, ce Bella Ciao, qui, à voir les premières planches du volume Uno, a valu à votre famille des sacrées prises de bec?
Oui.
Il y avait les pour, il y avait les contre.
Oui, mais c'est plus le fascisme qui a creusé vraiment la chose. Quoi. Mais la culture italienne, c'est le chambrage. Ça chambre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Pour le plaisir du jeu de mots, le plaisir de la langue.
Passer de la tragédie au rire, toujours.
Ça, tout le temps.
C'est dans l'ADN, oui, ça. Hein.
Moi, j'ai grandi avec ça et je n'applique que ça.
Alors, en nous rappelant ce qu'a été le massacre d'Aigues Mortes de 1893, pourquoi est-ce que vous ouvrez cette saga par ce massacre?
C'était simplement pour dire à mes lecteurs, mes lectrices, que toute l'histoire qui allait suivre était adossée à cette violence-là. Quoi.
Quelle est l'histoire de ce massacre?
Ben écoutez, ah oui, c'est vrai, peut-être qu'il faudrait que je dise ce que c'est. C'est que simplement, c'est que pendant la récolte du sel dans les salins du Midi, autour d'Aigues Mortes, c'était une époque où la France traversait une crise grave et des centaines et des centaines de gens qui descendaient, c'est-à-dire on appelait ça les trimards, pour venir travailler, trouver du travail pendant les quelques jours de la levée du sel. Mais il y avait aussi des Italiens parce que là-bas, chez eux, les récoltes étaient finies et tout, mais qui venaient aussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite d'une rixe qui a opposé dans la même équipe des trimards, donc des Français, et des Italiens. Et c'est ça qui a mis le feu aux poules, c'est que les Italiens reprochaient aux trimards, aux Français, aux Ardéchois, comme ils les appelaient, de ne pas aller assez vite. Et puis voilà, ça a dégénéré. Et au bout du compte, il y a eu une explosion de violence contre les Italiens. qui a provoqué la mort de au moins 9 personnes.
Alors vous avez travaillé évidemment à partir de photographies, j'imagine, de documents authentiques et puis d'éléments autobiographiques.
Oui aussi, mais ça c'est un peu plus loin déjà par rapport à Aigues Mortes. C'est vrai que c'est normalement le sous-titre de Bella Ciao, c'était le prix à payer. Mais c'est le prix à payer pour devenir transparent, pour qu'un étranger cesse d'être un étranger dans le pays où il a choisi de vivre. Et le prix qu'a payé mon père, par exemple, c'est que lui, il a fait le sale boulot. Quoi. C'est que je pense qu'il avait l'intelligence nécessaire, par exemple, à aller à l'école comme moi, je suis allé à l'école plus tard. Quoi. Il s'est quand même un peu sacrifié pour ça, quoi, pour nous permettre à nous, derrière, éventuellement, de bouger socialement, c'est-à-dire de devenir des transfuges de classe. Quoi.
Alors l'histoire ensuite de l'intégration de ces Italiens, elle se voit dès la page 41 et elle passe aussi par des petites choses du quotidien et notamment, c'est pas des petites choses, c'est l'état civil déjà, c'est par la francisation des prénoms, voire à Teodorico.
Oui.
Juste pour donner un petit peu une image, Baru, de vos dessins, est-ce que vous sauriez décrire la tête de vos personnages, la manière dont vous les dessinez?
Je sais pas. C'est que, vous savez, quand je travaille, je commence toujours par faire ce que j'appelle des petits formats. C'est-à-dire que je dessine mes planches en très petits, qui me permettent dans chaque case de placer les bulles, le texte, et de commencer à camper mes personnages. Quoi. Donc au début, c'est rien, c'est des patates, c'est rien du tout. Quoi. Et puis au fur et à mesure que l'histoire avance, ils deviennent de plus en plus précis. Ouais. Et là, un beau jour, je dis, mais ben voilà, c'est ça, c'est la tête qu'il va avoir, c'est sa tête. Et en fait, parce que moi, mon problème,
ils sont
c'est
quand même assez précis. On est très loin de Reiser, hein, dans votre dessin.
Ah oui, on est années de lumière.
Oui, franchement.
Oui. Non, mais ça, j'ai
parce que lui, c'est dégribouillé. On reconnaît vaguement le nez. Vous, il y a la barbe, il y a les lunettes, il y a le nez. Oui. Chacun a sa tête.
Oui, c'est vrai. Mais c'est qu'une fois que je me suis rendu compte que c'était pas la peine de faire du sous Reiser, ben que j'ai commencé à faire le tour de mes difficultés pour arriver à représenter les choses. Mais il faut savoir une chose, c'est que moi, j'étais prof de gym.
Et ça se sent ça dans le dessin.
Ah oui, énormément. C'est parce que moi, très tôt, j'ai su qu'un coude, ça se pliait à tel endroit, que quand on marche, on tombe en avant et on cherche à récupérer. Et donc, j'ai créé comme ça toute une dynamique du mouvement dans mes dessins qui sont dus tout simplement à ma formation de prof de gym.
Bah dites donc, c'est la meilleure des écoles alors pour devenir dessinateur. Devenez prof de physique,
d'éducation physique,
attention. En tout cas, raconter l'immigration italienne sur le temps long, ça c'était votre désir à vous. Le volume Doué s'ouvre sur la guerre de 14. Qui est raconté par un grand-père, peut-être votre grand-père, je ne sais pas, qui est forcément en chemise rouge. Est-ce que ça, c'est de la fiction, ça, ou c'est de la réalité?
Hélas, pour moi, c'est de la fiction, parce que la chemise rouge, c'est la chemise des Garibaldiens.
Alors, il faut nous rappeler, parce que ça s'ouvre aussi, ce volume 2, sur la figure d'un fils de Giuseppe Garibaldi. Oui. Et là encore, professeur, vous allez devoir nous faire retourner à l'école, nous rappeler qui était Garibaldi, désolé, et pourquoi la France était dans le cœur des Garibaldiens.
Alors, Giuseppe Garibaldi, ça a été la cheville ouvrière de l'unité italienne.
Donc c'est le père du patriotisme italien ?
Pratiquement, oui, pratiquement. Bon, c'est peut-être un peu à raccourcir parce qu'il était... Oula, pardon.
Un portable rock ?
Ouais.
Ça m'étonne de vous.
Je peux le couper, hein.
Ben oui, vous êtes invité.
J'ai oublié de le faire,
c'est désolé. Mais qu'est-ce que c'est, ça, comme sonnerie ?
Dr. Feel Good.
Oui, ça, c'est du sérieux. Hein.
Back in the night, je vais quand même le couper.
Mode avion sur Dr. Feelgood.
Oui.
Vous avez des bagues incroyables hein, aux doigts. Hein.
C'est un cadeau d'un copain qui s'appelle Charles Berberian.
Les histoires de Tonton Baru.
Oui.
Alors, Garibaldi.
Garibaldi. En tout cas, c'est lui qui a apporté son savoir-faire militaire pour se battre contre les résistances qu'il y avait en Italie, notamment dans le sud de l'Italie, avec l'ex-domination des Bourbons, parce que les Bourbons étaient installés en Italie du Sud. Et donc, c'est lui qui a contribué à faire l'unité italienne. Et il est allé dans tous les grands combats d'émancipation de l'époque, notamment en France. Il faut juste savoir aussi une chose, c'est que Garibaldi était né à Nice. Mmh. Qui était à l'époque était italienne, mais qui après est devenue française. Quoi. Garibaldi avait l'impression d'être français aussi. Quoi. Et donc, quand les Allemands ont envahi la France, enfin en tout cas l'Alsace-Lorraine, en 1870, Garibaldi s'est porté au secours de la France. Et il a eu ce mot absolument extraordinaire. Il se pointe et il descend du bateau et il dit « Voilà, je viens faire don à la France ce qu'il reste de moi ».
Très joli. En tout cas, donc, c'est pour dire que vous racontez effectivement la grande histoire de l'immigration, mais tout ça, ça se passe dans le salon de la famille Macaroni, comme vous le dites.
Oui, tout à fait. Oui.
Et vous la campez bien, cette famille, dans ce salon, notamment dans les moments de détente. Il y a même des chocs de génération que vous nous restituez qui sont là pour nous faire sourire. Ça se joue d'ailleurs sur un pick-up, ce choc des générations.
Oui.
Alors que les jeunes qui commencent à fumer en cachette sont à fond là-dessus.
C'est elle que j'aime, c'est combien je suis fou d'elle. Je l'aime tant, je l'aime passionnément, fou d'elle. Mon cœur est fou d'elle. Oh, oh, oh. Oui, elle est là, tu me perds, car son amour est sincère.
Les anciens demandent à ce qu'on remballe cette cochonnerie, je cite, pour faire place à ça.
Mamma son tanto felice, perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma son tanto felice.
Est-ce que le choc des générations que vous décrivez, page 41 du volume 2, hein, je crois, de Bella Ciao, Baru, ça passait aussi par la question de la langue? Il y a par exemple un mot qui traîne dans la tête des anciens, c'est le mot ritorno.
Ah oui. Oui, ça, c'est, là aussi, ça fait partie du prix à payer, quoi. C'est tous les immigrés, ils quittent leur pays parce que tout simplement, ils ne peuvent plus vivre dans leur pays, quoi. Et donc, quand ils vont ailleurs, eh ben, ils ne pensent qu'à une seule chose, c'est rentrer. Sauf que ça se passe jamais comme ça. Pour ce qui est des Italiens, mais c'est aussi vrai pour les Algériens. Hein, parce que dans ma bande, on était moitié-moitié. Il y avait moitié d'Algériens, moitié de Français. Enfin, Français. Avec des noms en IAO. Quoi. Et donc, parfois, il y avait la crise de lucidité en se disant, OK, les petits-enfants sont là, nos enfants sont mariés parfois avec des Françaises, et donc... C'est fini.
C'est fini. Et donc, mais vous racontez bien que ce mot de ritorno, c'est un mot qui a retardé la naturalisation. Je ne sais pas si c'est votre grand-père.
Là, c'est l'exemple de mon grand-père. Hein. Je me suis servi de ça, c'est évident. Hein. Mais sauf que ce n'est pas une résignation. Pour finir, c'est un choix.
C'est un renoncement aussi.
Certes, mais un renoncement positif. C'est-à-dire que, OK, on a choisi de vivre ici et c'est très bien comme ça. Quoi. Parce qu'ils savent très bien, de toute façon, quand ils rentrent en Italie, ils n'allaient pas être bien reçus.
Album où l'on apprend que donc vous êtes fan de Reiser et de son piège à taupe,
oui.
Que les années du Duce ont laissé évidemment des traces, que même en temps de guerre, il y avait toujours une petite place pour de la polenta, que dans les familles des Antonio, c'est pas ce qui manquait, que le mot résistance foutait une sacrée ambiance au repas de famille et que les parents n'omettaient jamais de fêter le Saint Lundi.
Alors oui, le Saint Lundi, c'est que par exemple, là, c'est le week-end, vous avez fini votre boulot, vous en avez ras-le-bol, vous allez donc commencer à aller au bal le samedi, y retourner le dimanche, parce que c'est bien agréable, le dimanche soir aussi, et puis après, plus la nuit avance, et plus l'heure d'aller au boulot se rapproche, et puis à un moment donné, on décide, mais on n'y va pas. Mais c'était une époque où, quand un Italien, par exemple, n'allait pas bosser, et que son patron lui disait, bah, allez, tu fous le camp. Il faisait 20 mètres, il retrouvait une place aussi sec parce qu'il y avait du boulot, il y avait du travail, il y avait du travail. Toute cette intégration, j'allais dire, cette assimilation des travailleurs étrangers en France n'a été possible que parce qu'il y avait du travail. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a plus.
En tout cas, en campant ces faits d'histoire autour de cette immigration italienne et puis en restituant cette époque des années...
En gros, 1970, parce que moi, je fais tomber le haut fourneau en 1970. Pardon.
Oui. Est-ce que vous diriez que vous êtes une sorte de sociologue avec des crayons?
Non, j'ai beaucoup trop de respect pour les sociologues et la sociologie pour prétendre en faire. Mais j'ai la tête sociologique, oui.
La tête sociologique, ça veut dire quoi ?
Ben, c'est la sociologie qui m'a donné des outils pour comprendre la marche du monde, pour comprendre qui j'étais et pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Quoi.
Bon, je ne sais pas si c'est une remarque sociologique, mais est-ce que vous pensez que c'est grâce finalement à ce chant Bella Ciao, ce chant de résistance qui donne le titre à votre saga, que vous défendez à votre manière, Baru, les enfants, on va dire, d'étrangers et d'ouvriers ?
Les défendre, je pense qu'ils sont, j'espère, assez
grands. Vous les racontez,
oui. Leur donner le beau rôle, le premier rôle. À l'époque où j'ai commencé, on ne parlait pas d'ouvriers dans les bandes dessinées. C'était Tintin, c'était des personnages transparents.
Quoi. Pas d'origine sociale, oui.
Voilà, aucune. Mais même, c'est tout juste s'ils mangeaient. Oui, même s'ils allaient aux toilettes. Quoi. C'est donc, alors que moi, j'ai
ça
fait...
Ça boit chez vous, hein.
Oui. Et moi, j'ai fait ça, je me suis dit, OK... J'ai parlé des miens et on va avoir le beau rôle.
Alors j'imagine que vous avez vu que ce Bella Ciao, ce chant de résistance, a basculé ces dernières semaines sur un autre coin de la planète.
تو صدای ما. بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب. یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا.
Dans votre en sol majeur, Baruch, Bella Ciao, donc repris en persan par une jeune iranienne pour soutenir la révolution qui est en train de se jouer sur, non seulement sur la question des femmes, hein, mais sur la question du régime des mollahs. Le roi n'est pas votre cousin, là, non ?
Bon, moi je trouve ça remarquable, hein, évidemment. Et bien, surtout, ce que je trouve remarquable, c'est les Iraniens eux-mêmes, quoi. C'est...
Mais que ce chant-là de résistance qui incarne vraiment Bella Ciao, c'est l'Italie.
Mais oui, c'est l'Italie, mais je pense que c'est, ça y est, c'est fini, c'est plus l'Italie, Bella Ciao. Ça appartient au monde entier.
C'est l'universalisme.
Exactement.
Ça y est, on est rentré dedans.
Complètement. C'est que même à la limite, dans peu de temps, il y a des gens qui ne sauront même pas que c'est un chant italien au départ, quoi. Mais ça veut dire une chose toute simple, alors que ce n'est pas un chant de résistance. Peut-être que les résistants italiens l'ont chanté, quoi. Mais depuis, ça a été tellement absorbé par tous les gens qui se battaient, quel que soit l'endroit du globe où ils se battent, que maintenant, c'est à eux que ça appartient. Et donc, peut-être que c'est, moi, ma contribution modeste à cette chose-là, quoi, j'espère.
Oui, c'est ce que je me disais. C'est un peu l'ambition, quand on parle d'universalisme comme ça, c'est l'ambition de votre saga. C'est de raconter la vie, finalement, de tous les immigrés ou de tous les ouvriers, pas seulement italiens.
Oui, tout à fait. Et je suis content que vous me disiez ça, parce que comme je voulais être sûr que ça soit lu de cette façon-là, quoi, j'ai même trouvé un truc pour revenir à Aigues-Mortes à la fin du bouquin, pour signifier qu'il y avait été juste une translation dans le mépris et dans la violence, en passant des Italiens aux Maghrébins.
Point. The Land of Thousand Dances, la terre des mille danses. Et voilà que le portable de Baru sonne encore. Vous êtes très demandé, hein ? Je croyais que vous l'aviez éteint. Il est éteint, là, ou pas ?
Ça y est, oui.
Et c'est là que je suis censé vous dire, alors comme ça, vous êtes aussi Wilson Pickett, Baru.
Si seulement.
Comment ne pas l'être ?
Oui, si seulement. J'ai adoré ce type.
Vous dansez en même temps que vous dessinez, ou comment ça se passe?
Non, généralement, je m'arrête, il vaut mieux, parce que... Non, mais d'une manière générale, je danse, moi, je bouge. Et avec ma femme aussi,
danser.
Ma femme est une remarquable danseuse de rock'n'roll.
Wow. Vous savez choisir vos partenaires.
Peut-être que c'est les empilements successifs qui ont fait qu'au bout du compte, on finisse par passer notre vie ensemble.
Je ne sais pas de quel empilement vous parlez. Alors, au milieu de votre discothèque très rock et de vos planches à dessin, il y a quand même des lectures qui ont été fondatrices. Bourdieu, lui aussi, vous a aidé à penser le monde. Son essai, notamment celui qui élabore une théorie du goût, la distinction, sous-titré oui. « Critique sociale du jugement ».
Critique sociale du jugement, j'entends, bon, c'est le titre célèbre de Kant, enfin, que je pastiche de façon un peu ironique. Enfin, bon, Kant a écrit une critique du jugement qui prétendait être une critique pure du goût. Enfin, bon, il essayait de répondre à la question qu'est-ce que goûter, qu'est-ce que préférer, etc. Et j'ai essayé de faire, disons, la même chose avec de tout autre moyen. J'ai essayé de montrer que dans les classements sociaux que nous opérons, quand nous mettons une cravate, nous ne mettons pas une cravate, quand nous mettons une cravate à poids, une cravate unie, quand nous achetons une Mercedes ou une de chevaux, quand nous faisons du yoga, ou du rugby, etc. Tous les choix que nous faisons, qui ordinairement sont imputés au goût et aux couleurs, enfin ce sont ces choses que l'on impute au fond à la nature. En fait, je pense que tous ces choix ont leurs principes dans la société et dépendent d'une part de notre formation, de notre éducation, de l'ancienneté de notre éducation, de notre milieu, de notre capital scolaire, etc.
Etc. Et comme quoi on peut passer en sol majeur de Wilson Pickett à Bourdieu, sur le plateau d'Apostrophe, s'il vous plaît. Alors vous l'écoutez à la fois religieusement, mais en souriant, il a fait un travail de classification de l'espace social absolument extraordinaire. Ça vous a aidé, ça ?
Oui, énormément. Énormément, parce que surtout, il m'a décomplexé.
Pourtant, ce n'est pas un simple, hein, c'est un troncheux, Bourdieu.
Oui,
hein.
Oui, mais...
En quoi il vous a décomplexé ?
Je pense que, comme tous les transfuges de classe... on souffre du sentiment d'illégitimité. Et il m'a donné des outils pour commencer à penser ma situation, ma position sociale, et après penser ma trajectoire. Pour moi, la vie a été plus légère après.
Sur quoi ça a été plus léger ?
Disons que j'ai moins souffert du sentiment d'avoir trahi ma classe. C'est aussi le prix, hein, du transfuge de classe. Et surtout, il m'a fait relativiser les choses. C'est-à-dire que d'un seul coup, cette espèce de forteresse culturelle à laquelle j'aspirais m'est apparue non plus comme une forteresse immuable depuis la nuit des temps, elle m'est apparue comme une construction. Mmh. Une construction où il y avait des gens qui se protégeaient des autres, quoi. Il m'a permis de renverser la priorité, l'ordre.
Le rapport de force.
Et ça, c'est exceptionnel.
Que vous seriez prêt, puisqu'il l'expliquait dans la distinction, vous seriez prêt, Baru, à mourir davantage pour vos goûts que pour vos opinions ?
C'est la même chose, non ?
Ben non, il paraît. Est-ce que, vous voyez, l'idée de la résistance, c'est un concept, on va dire. Avoir une deux chevaux, c'est très concret. Est-ce que vous seriez prêt à mourir pour votre deux chevaux plutôt que pour cette idée de la résistance ?
Disons que déjà, comme spontanément, je ne suis pas prêt à mourir. C'est un petit peu le problème, le principe. Sauf que je suis hanté par la résistance, moi, parce que je me pose sur la question, qu'est-ce que j'aurais fait ?
Plus loin, Bourdieu dit que pour parler du goût, en fait, il faut parler du dégoût.
Oui. Oui, je suis ce que je n'aime pas.
On va jouer à savoir un petit peu ce que vous aimez, ce qui est de l'ordre du goût ou du dégoût, avec notre abécédaire en sol majeur.
F comme Faust ou Figaro.
Figaro, sans hésiter. Parce que je déteste le déterminisme. J'essaie de passer ma vie à lutter contre ce déterminisme-là, c'est-à-dire à permettre à tout un chacun de se déplacer et de ne pas rester là où les déterminismes les assignent. Quoi.
Pétanque ou voile ?
Pétanque. Parce que la voile, il y a un côté un peu aristo comme ça qui m'agace. Quoi. Mais cela dit, j'ai fait de la voile.
Faut pas le dire trop fort.
Non, si. C'est pas... Mais c'était du vaurien. Parce qu'il y avait un bateau qui s'appelait le vaurien et que j'affectionnais particulièrement. Je sais pas pourquoi.
On se demande. Jean-Jacques Rousseau ou Michel Onfray ?
Onfray m'a séduit un certain temps, je dirais Rousseau. Rousseau, parce qu'aujourd'hui, Onfray m'avait séduit un certain temps, mais depuis qu'il a viré Réac comme ça, non. Je ne peux plus.
Commode Empire ou Bibliothèque Art Nouveau ?
Ni l'un ni l'autre, parce que c'est en dehors de mes capacités financières.
Mais si vous rêvez ?
Ah, en rêvant, Ça dépend. Je ne sais pas. Si je suis en 1900, ça sera l'Art Nouveau. Enfin, plus tard, 1914-15. Mais ou sinon, Empire. Non, en fait, une bête table sur des tréteaux, c'est impeccable pour dessiner. C'est tout ce qui me suffit.
La Méditerranée ou l'océan Atlantique?
Ah, l'Italie ou la Bretagne? Comme je suis italo-breton, ça sera les deux. Pas un, ni l'un ni l'autre. Non, en fait, objectivement, pour une question de température, c'est la Méditerranée. Vous vous rendez compte que je vais souvent en Sardaigne. Hein. Bien sûr, je me baigne tout le temps. Et parfois, je la trouve un peu fraîche. Faut dire, alors qu'elle est à 24 degrés.
Virginie Despentes ou Russell Banks?
Ah, ça, c'est l'école. Hein. Virginie Despentes, je ne connais pas assez. Russell Banks, je connais beaucoup mieux. Donc, Russell Banks.
Donc là, c'est pas un vrai choix, quoi.
Non, c'est pas un vrai choix.
Bourdieu, toujours lui, il distingue le goût légitime du goût moyen ou du goût populaire. Vous savez où vous vous situez, vous?
Aujourd'hui, compte tenu de ma trajectoire, ça serait dans le goût moyen, quoi. Mais au départ, c'est le goût populaire.
Quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela.
Ce chant, il appartient à quel goût?
Le problème, c'est qu'il a probablement été écrit par des lettrés, mais qu'il a été chanté par tout le monde.
c'est un problème. C'est le mouvement des brigades internationales, c'est
oui,
le chant.
C'est le chant des brigades.
C'est important pour vous, ça?
Oui, énormément.
Pourquoi?
Ben parce que c'est comme tout à l'heure pour la question de la résistance. C'est si j'avais été confronté au même choix, qu'est-ce que j'aurais fait? Je le sais pas. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, vous savez, au moment de la guerre en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, il y avait des gens qui partaient pour aller se battre aux côtés de telle ou telle faction. Hein, à un moment donné, j'ai dit, mais c'est le moment de lever le doute.
Vous êtes posé la question.
Ouais. Alors après, peut-être, je ne sais pas, peut-être par lâcheté, surtout parce que j'y comprenais rien. Alors que pour la guerre d'Espagne, c'était clair. Il y avait les fascistes et il y avait ceux qui se battaient contre. Quoi.
Est-ce qu'artiste, c'est être quand même une sorte de résistant pour vous?
Si c'est artiste contemporain, j'en doute, mais...
bon,
c'est, oui.
Artiste non, contemporain, c'est artiste planqué?
Non, pas du tout. C'est un monde qui fabrique des inégalités, c'est-à-dire qui va mettre l'individu lambda en dehors de ce champ-là, du champ de l'art, justement. Et moi, ça m'agace profondément.
Et justement, vous êtes rentré dans la ronde, vous faites partie du cercle. Donc
oui,
vous
non,
êtes...
moi je ne considère pas que...
Vous êtes l'exception qui confirme?
Non, pas du tout. Je pense que la bande dessinée n'appartient pas au champ de l'art. La bande dessinée appartient au champ des bandes dessinées et elle est exclusivement préoccupée de son excellence. Point.
Une belle conclusion. En sol majeur avec Baru, où enfin je peux, figurez-vous, vous poser sérieusement cette question qui me taraude. Beatles ou Stones?
Ah ok, bon d'accord, je vais être franc, c'est Stones.
Ah oui,
oui.
Les deux faisaient partie de votre programme en son
ah,
majeur.
Oui, tout à fait. Mais alors, et notamment, le premier titre des Beatles que j'ai entendu, ça m'a mis la tête à l'envers. Hein. Ma vie, elle a changé ce jour-là. Quoi. C'était...
I Saw Her Standing.
Oui, voilà, et celle-là. Ouais. Oui, alors, parce que ça commence par 1, 2, 3, 4. Et tac, derrière, ça, avec une puissance. Vous savez, aujourd'hui, on n'en a plus l'impression. Mais même dans les radios, c'était, quand les Beatles jouaient, ils jouaient très fort, très très fort. Et donc, automatiquement, tu te ramasses ça dans la tronche, quoi, c'est génial. Ouais, j'ai fait le tour de la maison en courant.
Malgré ça, vous avez choisi les Stones avec la Route 66, pourquoi?
Parce que c'est... Je suis un peu victime, je pense, de l'image de rebelle des Rolling Stones. Quoi. Et ça a été beaucoup plus facile pour moi de m'identifier à eux qu'avec les Beatles, que je trouvais un petit peu trop propre, trop lisse.
Gentil garçon.
Quoi. Alors qu'au fond, quand j'ai su ça plus tard, j'étais plus proche des Beatles sociologiquement que des Rolling Stones.
C'est un débat éternel. Donc on reste sur les Stones, on est d'accord?
Oui, je pense. Parce que ne serait-ce que pour Route 66, mais pas que, parce qu'il y en a un paquet. Penny Black notamment, c'est un chef-d'œuvre.
Au générique de cet En sol majeur, un peu de Bella Ciao, ça c'est aux éditions Futuropolis, on aura compris, un petit peu de Chaussettes Noires, de Claudio Villa, de Bourdieu et de Polenta. Tout ça est à retrouver en podcast sur votre application Pure Radio. Caroline Filliette, Laura Pinto, Théo Raison, Yasmine Chouaki, on arrête de buller pour vous retrouver demain avec Nadia Yala Kisukidi. Dans un instant, votre journal suivi de tous les cinémas du monde.